Vous écoutez, on lit pour vous.
Prochain dent, je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, mais je le referai. Un texte de Daniel Leblanc, publié le 30 janvier 2026 dans Le Droit. La Gatinoise Renée Labelle garde des souvenirs impérissables du soutien à domicile qu'elle a réussi à obtenir, ayant dû, comme plusieurs, se tourner vers le privé dans les derniers mois de la vie de son père, Clayton, décédé en mai dernier à l'âge de 95 ans. Dans sa maison, aménagée dès le départ en prévision qu'elle ou son époux y accueillent l'un de leurs parents vieillissants, elle a vécu avec son paternel de 2021 à 2025. Il disait toujours non à l'offre d'habiter sous le même toit, mais il a changé d'avis un an après le début de la pandémie. Il était autonome en appartement à Ottawa, mais à cause de tout ce qui se passait et qu'on entendait dans les CHSLD, les histoires d'horreur, il a accepté, raconte-t-elle. Et lui, il pensait que ça durerait un an, mais on a été 4 ans ensemble. Ça a été absolument magnifique. Le déclin. Si les 2 premières années se sont bien déroulées sur le plan de la santé de son père, une vilaine chute a causé un certain déclin. Puis, pendant l'été suivant, il est tombé une autre fois. Ensuite, en novembre, il a été hospitalisé 6 semaines. Puis, quand ils l'ont renvoyé à la maison, un 23 décembre, il n'était plus stable, pas solide. Médicamenté et moi, je n'avais aucune aide, se remémore Mme Labelle. Tout a commencé à se gâter par la suite. Dans les jours suivants, il a fallu commencer à poser un cathéter à son père et la fatigue a commencé à s'installer sournoisement. Angoissée, elle a appelé Bien chez soi, une entreprise d'aide à domicile comptant plusieurs points de service en Outaouais comme ailleurs. Voyant venir les coups. Elle avait d'ailleurs déjà lâché un coup de fil quelques semaines plus tôt. C'est vraiment là que j'ai perdu ma capacité d'être proche aidante. Je suis quand même en parfaite santé et forte, mais je ne suis pas une infirmière. Le jeudi soir, j'ai posé le cathéter et le lendemain, j'ai complètement paniqué. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire un autre matin, je n'étais pas capable de le lever pour le nettoyer, répondre à ses besoins pour qu'il soit bien longtemps. René Labelle. Dès le lendemain, à son énorme soulagement, une aide à domicile avec un auxiliaire de vie sociale lui était donnée. Les liens n'ont pas tardé à se tisser. C'était comme un petit ange qui entrait dans notre maison, lance-t-elle en parlant de Roudelin, l'homme d'une grande carrure et à la voix douce qui est entré dans sa maison. On a su que c'était le bon dès le début. Il est resté avec mon père jusqu'à la toute fin. Le dernier matin, quand on est allé à l'hôpital, il était là, ému. Il s'est investi. C'est un homme exceptionnel. René Labelle parle avec tout autant d'affection de Marie qui a accompagné son père. Elle était comme une fleur. Elle était plus petite et quand je lui ai demandé si c'était devenu trop difficile, qu'elle pouvait se faire mal, elle a dit « Non, ton père, c'est comme mon père. Je vais rester aussi longtemps que vous le souhaitez », se rappelle-t-elle impressionnée. Tout juste avant son décès, Clayton a pu passer ses dernières heures avec sa famille, des enfants aux arrière-petits-enfants. Une soirée à l'extérieur, toute simple, avant le coucher du soleil. C'était une soirée magnifique. Et elle, Marie, a joué le rôle de proche aidante. Elle m'a laissé être la fille. Je n'ai pas eu besoin de l'amener à la toilette, etc. Ce soir-là, c'était seulement moi et mon père, avec mes enfants, la famille, etc. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, confie-t-elle émotive. Tenir le coup. Madame Labelle soutient avoir vite réalisé à quel point ce coup de main est primordial pour tenir le coup, autant mentalement que physiquement. On ne le réalise pas, mais Woodland venait et ne restait que 45 minutes, le temps de le lever doucement, le nettoyer, l'asseoir dans sa chaise pour qu'ensuite je lui serve à déjeuner. Tout cela prend beaucoup d'énergie. Et le plus le temps avançait, moins il était autonome, dit-elle. Ce n'est pas comme si je pouvais le laisser là et partir. Papa ne pouvait pas rester seul. À la toute fin, elle n'a eu d'autre choix que de recourir à un soutien à domicile presque 24 heures sur 24. Les saisons ont passé, le deuil est encore frais, mais avec le recul. La proche aidante admet qu'elle n'aurait pu s'en sortir seule avec son mari. « Il serait mort, » répond-elle au bord des larmes, quand on lui demande comment elle imagine le scénario sans aide. « Ça m'a pris de mai jusqu'à la fin septembre avant de ravoir mon corps. Tout mon bras droit était complètement fichu, ma hanche gauche aussi. C'est pesant, un homme. Rire. En Outaouais, en date du 31 mars dernier, on comptait 1728 personnes en attente d'un service à domicile. Au prorata de la population, c'est environ 4 fois plus que dans les régions de Laval et de Montréal. Bien qu'elle indique qu'elle n'aurait pas accepté cet argent pour prendre soin de son père, la Gatinoise applaudit l'annonce par le gouvernement du Québec jeudi que les proches aidants, selon certains critères, pourront désormais être rémunérés, 21 $ l'heure, au même titre que les travailleurs d'aide à domicile, en marge de la Politique nationale de soutien à domicile, PSAD. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a des gens qui pourraient vraiment en profiter, surtout si c'est ton conjoint. Tu es là, de toute façon, tu pourrais faire la moitié des heures toi-même et embaucher pour l'autre moitié. Je pense que c'est une validation que c'est quelque chose de difficile. Je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, mais je le referai. René Labelle. Disant avoir elle-même appris « on the fly », sur le tas, beaucoup de choses durant cette expérience de vie, elle estime que le réseau public va devoir s'ajuster et qu'on devra miser encore davantage sur les services de soutien à domicile, un volet sous-valorisé avec le vieillissement de la population. Ça a fait durer mon père avec une qualité de vie incroyable. C'est les proches aidants et le soutien à domicile sous-évalués à la fois financièrement et aussi socialement. Et c'est essentiel comme travail, pas secondaire, s'exclame-t-elle, traçant un parallèle avec les éducatrices à la petite enfance, par exemple. C'est la personne qui donne la dignité et une certaine santé à la personne qui reçoit les soins. Et ça peut être pendant plusieurs années, si c'est bien fait. Investissement réclamé. Soulignant que l'état de santé de son père s'est par hasard dégradé 3 jours après qu'elle ait pris sa retraite, ce qui a facilité les choses étant donné que le défi aurait été tout autre en étant sur le marché du travail, Madame Labelle se dit aussi pleinement consciente que ce n'est pas tout le monde qui peut débourser pour de tels services auprès du privé. La dame, qui estime que le réseau public doit par ailleurs davantage serrer la vis pour l'expérience et la formation du personnel déployé, en plus de hausser le plafond d'heures imposé en soutien à domicile, aimerait que des investissements massifs soient effectués. Nos services publics, c'est l'une des choses les plus importantes et on dirait que c'est là où on coupe tout, en éducation, en santé, dans les services gouvernementaux, etc. Je veux payer mes taxes pour que ça fonctionne, mais là, on paie, mais dans notre région, on reçoit un peu partout que le minimum de services. D'ici 2040, 1 personne sur 4 aura 65 ans et plus en Outaouais, bien que la région ait actuellement l'un des ratios les plus faibles dans cette catégorie d'âge au Québec. C'était, proche aidant, je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, mais je le referai. un texte de Daniel Leblanc, publié le 30 janvier 2026 dans Le Droit.
De mystérieuses araignées sur Mars. Un texte paru le 18 novembre 2024 dans le magazine Québec Science. Des motifs étranges sur Mars, ressemblant à des araignées, intriguent les scientifiques. Ces formations, loin d'être des créatures vivantes, sont en réalité le résultat d'un processus géologique unique impliquant de la glace carbonique. Au-delà du sol rouge et rocailleux, les scientifiques ont observé depuis plusieurs années des araignées géantes. Ces structures, observées principalement dans l'hémisphère sud de Mars, ne sont pas des traces de vie extraterrestre, mais le résultat d'un fascinant processus géologique unique à la planète rouge. Voici comment ces araignées se forment. Durant l'hiver martien, une couche de neige carbonique se dépose à la surface du sol. La neige carbonique ressemble à la glace qu'on retrouve sur notre planète, à la différence qu'elle n'est pas composée d'eau, mais de dioxyde de carbone, CO2. Cette neige carbonique, souvent appelée glace sèche, est connue car elle produit de la fumée lorsqu'elle est à température ambiante. Revenons à Mars. Au printemps, les rayons du soleil traversent cette glace transparente et réchauffent le sol en dessous. Ce réchauffement provoque la sublimation de la glace carbonique, c'est-à-dire le passage direct de l'état solide à l'état gazeux. La glace la plus près du sol se réchauffe en premier. Le gaz ainsi formé s'accumule sous la couche de glace, ce qui fait augmenter la pression. Lorsque la pression devient trop forte, la glace se fissure, permettant au gaz de s'échapper violemment. Cette éjection de gaz entraîne avec elle de la poussière et du sable, creusant des sillons dans le sol martien. Ces sillons forment des motifs ramifiés ressemblant à des pattes d'araignée pouvant s'étendre sur plus d'un kilomètre. Pour confirmer cette théorie, des scientifiques ont reproduit ce phénomène en laboratoire. Ils ont utilisé une chambre spéciale pour simuler les conditions extrêmes de Mars, des températures très basses allant de moins 143 degrés centigrades à plus 20 degrés centigrades, avec une faible pression atmosphérique. Ils ont aussi recréé un sol martien recouvert de neige carbonique. En chauffant le sol avec une lampe pour imiter l'effet du soleil, ils ont alors observé la formation de motifs similaires aux araignées martiennes. Cette découverte nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de Mars, son climat et sa géologie. Malgré ces avancées, des questions restent en suspens. Pourquoi ces formations n'apparaissent-elles que dans certaines régions de Mars? Pourquoi ne semblent-elles plus évoluer, que ce soit en nombre ou en taille? La planète rouge a encore des mystères à nous dévoiler. C'était « De mystérieuses araignées sur Mars », un texte paru le 18 novembre 2024 dans le magazine Québec Science.
Le repos est-il devenu un luxe? Un texte de Charlotte Mercil paru le 7 mars 2026 dans Le Devoir. Fatigue chronique, troubles du sommeil, surcharge de travail. Le diagnostic collectif est désormais bien connu. Or, loin d'être une fatalité, le manque de repos apparaît surtout comme le résultat de choix collectifs. Chercheurs et sociologues repèrent de plus en plus clairement ce qui fonctionne pour protéger ce pilier de notre santé, au travail comme dans la vie quotidienne. Les données sont éloquentes. Environ le quart de la population québécoise ne dort pas suffisamment la nuit et un autre quart souffre d'un ou de plusieurs troubles du sommeil, comme l'insomnie ou l'apnée du sommeil, souligne Nadia Gosselin, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Autrement dit, près d'une personne sur deux vit avec un déficit de sommeil ou un trouble qui compromet sa capacité à récupérer adéquatement. Cette fatigue persistante est souvent banalisée, parfois même portée fièrement comme une médaille d'endurance. Elle témoigne pourtant d'un déséquilibre profond entre les exigences du quotidien et les besoins biologiques du cerveau. C'est devenu une épidémie normalisée dans notre société, observe la neuropsychologue.
Dans les milieux de travail, cette banalisation s'exprime de façon particulièrement marquée. C'est mal vu d'avoir besoin de repos. Dans certains environnements, cela peut même être perçu comme une faiblesse, note Nadia Gosselin, aussi directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil du CIUS du nord de l'île de Montréal. Pourtant, la science démontre l'inverse. Lorsque les employés récupèrent suffisamment, ils sont plus performants, ils abattent une charge de travail plus grande en moins de temps et font preuve de moins de présentéisme. Plusieurs solutions concrètes existent. On peut s'exposer plus régulièrement à la lumière naturelle, s'adonner à l'exercice, cultiver des heures de coucher et de lever stable et limiter la caféine et l'alcool en fin de journée. Si les écrans sont souvent diabolisés sur la place publique, le constat scientifique est plus tempéré. C'est surtout la nature du contenu consommé et le temps passé à l'extérieur qui influent sur la détente ressentie. Si l'on est exposé à davantage de lumière bleue le soir parce qu'on est resté à l'intérieur, ou si l'on regarde des nouvelles stressantes au lieu d'une sitcom réconfortante, le cerveau aura plus de difficultés à s'apaiser la nuit venue, explique Nadia Gosselin. Une ressource inégalement distribuée. Cela dit, réduire l'impasse du repos à un simple manque de volonté des individus serait une erreur. Depuis quelques décennies, les journées de travail se sont intensifiées. On demande aux travailleurs de faire plus, plus vite, avec moins de ressources, observe la sociologue du travail Laurie Kerouac. Le télétravail et les technologies ont accentué la porosité entre travail et congé, brouillant les frontières et compliquant la récupération de la population active. Les approches centrées uniquement sur le bien-être individuel montrent donc rapidement leurs limites lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'une adaptation de la charge mentale. Le travail est une activité profondément collective et, pourtant, on investit de moins en moins dans les collectifs. Lorsque ceux-ci se fragilisent, la fatigue est vécue de façon plus isolée. Bref, on propose souvent des solutions individuelles pour gérer la fatigue, alors que les causes sont organisationnelles, explique la professeure agrégée au département des relations industrielles de l'Université Laval. L'accès au repos demeure par ailleurs inégal, ajoute-t-elle. Les femmes, notamment, continuent d'assumer une part disproportionnée des responsabilités domestiques et de proches aidants, souligne Laurie Kerouac. La précarité ou la monoparentalité peuvent également diminuer les possibilités de se ressourcer. Les changements climatiques viennent enfin affecter un nombre grandissant de dormeurs qui tentent tant bien que mal de s'assoupir dans des logements mal ventilés ou surpeuplés. La santé publique dispose de leviers importants. Valoriser le repos comme une pierre angulaire d'une vie équilibrée, au même titre que l'activité physique et la nutrition, développer des campagnes d'éducation, la création de salles de sieste et faciliter l'accès au traitement des troubles du sommeil font partie des mesures les plus prometteuses. Nadia Gosselin insiste sur l'enseignement des bases du sommeil dès l'école et le début des classes au plus tôt à 8h30 et idéalement à 9h pour les adolescents. Ces mesures pourraient apaiser les jeunes générations qui n'ont jamais été aussi fatiguées depuis que le sommeil est documenté, précise-t-elle. Au travail, un changement de culture s'impose pour prévenir cette fatigue qui, à la longue, risque de pénaliser autant les employés que les organisations. Mieux encadrer le temps de travail, proposer des mesures efficaces de conciliation travail-vie personnelle et cesser de valoriser la surcharge constituent autant de pistes d'action que pourraient emprunter les décideurs et les organisations, affirme la sociologue du travail. Dans une société où l'on compense la fatigue à coups de café, ce sont des écosystèmes professionnels et intimes entiers qui gagneraient à voir le repos reconnu comme un droit plutôt qu'un luxe. C'était « Le repos est-il devenu un luxe ?» un texte de Charlotte Mercil paru le 7 mars 2026 dans Le Devoir.
Un rêve d'enfance de la ferme à la lune. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 avril 2026 dans la presse. La famille de Jeremy Hansen raconte comment l'astronaute en est venu à se passionner pour l'espace. Jeremy Hansen est le premier Canadien à voyager vers la Lune dans le cadre de la mission Artemis II qui a décollé le 1er avril 2026 pour un voyage historique de 10 jours. Il réalise ainsi un rêve d'enfance formulé à l'âge de 5 ans dans la ferme de ses parents en Ontario après avoir vu une photo de Neil Armstrong. Quand Jeremy Hansen avait 4 ans, son grand-père a obtenu un permis de pilote et l'a amené voler avec ses parents Nancy et Gary. Un an plus tard, le petit Jeremy affirmait qu'il allait devenir astronaute et ses parents l'ont amené en vacances au Centre spatial Kennedy en Floride. Près de 45 ans plus tard, Jeremy Hansen est le premier Canadien à faire le tour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis II. Jeremy ne s'en souvient pas. Mais son désir de voler lui vient de son grand-père, j'en suis sûre, a raconté Nancy Hansen en entrevue avec la presse à son domicile d'Ingersoll, une ville du sud-ouest de l'Ontario. Quelques mois plus tard, les parents du futur astronaute ont acheté une encyclopédie et leur fils unique a insisté pour regarder les pages consacrées à l'aviation. C'est là qu'il a vu une image de Neil Armstrong sur la Lune et déclaré à 5 ans qu'il deviendrait astronaute. On a fait un voyage en Floride pour prendre des vacances, se souvient Nancy Hansen, mais surtout pour l'amener au Centre spatial Kennedy. Il était à la maternelle. Ensuite, il a vu les Canadiens sur la navette spatiale. Il a été très frappé par Chris Hadfield. Marc Garneau a été le premier Canadien à atteindre l'espace en 1984 et Chris Hadfield, qui a grandi dans la même région de l'Ontario que la famille Hansen, a effectué sa première mission spatiale en 1995, alors que Jeremy avait 19 ans. Des images marquantes. Je voyais des Canadiens dans la navette spatiale. J'aimais les sciences. Je me disais que tout était possible pour moi, a raconté Jeremy Hansen en entrevue. Un surdoué. Jeremy Hansen a grandi avec sa famille dans une ferme près d'Elsa Craig, en Ontario. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, il démontait ses jouets pour les remonter. Dès que c'était électrique, il voulait savoir comment ça fonctionnait, dit Madame Hansen. En 5e année du primaire, son professeur a suggéré à ses parents qu'il apprenne à programmer les ordinateurs. Il était tellement bon que le directeur de l'école l'a chargé d'enseigner la programmation à d'autres professeurs, raconte Nancy Hansen. Son seul défaut, selon sa mère, était de trop faire confiance aux autres. « Nous l'avons élevé pour qu'il ait une bonne fibre morale, qu'il ne mente pas, ne triche pas, ne vole pas. Il a toujours pensé que les autres faisaient de même. Des fois, il fallait lui dire « Je ne suis pas sûre que cette personne dit la vérité ». Généralement, c'était pour de petites choses, mais on ne voulait pas non plus qu'il fréquente de mauvaises personnes. Les Hansen ont continué à encourager les passions de leur fils. Gary Hansen a lu dans le journal de London un article sur les cadets de l'armée de l'air quand Jeremy avait 12 ans. Il en a parlé à son fils, qui a immédiatement voulu en faire partie. Le futur astronaute a obtenu son brevet de pilote de planeur des cadets de l'air à 16 ans. Pilote de chasse et titulaire d'une maîtrise en physique, M. Hansen a été choisi comme astronaute en 2009, mais n'a jamais participé à une mission spatiale. Il a été sélectionné pour Artemis en 2023. Calme, serviable et inspirant, Jeremy Hansen a 3 enfants, Devon, Ashley et Caitlin, qui tracent le portrait d'un père calme, serviable et inspirant. Quand elle revient à Noël chez ses parents à Houston, au Texas, Ashley Hansen va toujours faire un tour de Cessna avec son père. L'habitude a commencé très jeune, quand elle est partie en pension dans une école secondaire ontarienne avec sa jumelle, Caitlin. « Chaque fois, il me montre à piloter », dit la fille de l'astronaute canadien qui est maintenant dans l'armée de l'air, comme son père, et étudie au collège militaire de Kingston. « Il reste toujours très calme », dit-elle. Des fois, il me dit, sans changer de ton, « Là, il faut que tu fasses ceci ou cela, parce que sinon nous allons descendre en vrille et nous allons mourir en nous écrasant. » Sa voix ne reflète pas la gravité de la situation. Pensait-il avoir peur lors du lancement ? « Je pense qu'on aura beaucoup d'émotions tout au long de la mission », disait sa femme, Catherine Hansen, gynécologue obstétricienne en entrevue avec la presse en janvier, alors que la famille était en quarantaine avant la première fenêtre de lancement. De la joie, de la peur, de la tristesse, et probablement aussi de la terreur, quand la fusée va décoller. Les parents de l'astronaute Nancy et Gary Hansen ont fait le voyage en Floride pour assister au lancement. « Je fais confiance à la NASA. Je suis sûre que tout a été fait pour que la mission soit la plus sûre possible », dit sa mère. « Je serai contente qu'il puisse réaliser son rêve d'être astronaute et d'aller vers la Lune. » La barre très haut. Tous les pilotes de chasse se dévouent à leur profession. Mais Jérémy s'est toujours distingué parce qu'il met la barre très haut, dit son ancien commandant dans l'armée de l'air, Stephen Will. Il cite une implication enthousiaste dans des traditions martiales qui tranchent avec l'apparence de bon garçon de l'astronaute. Toute la famille Hansen partage le sérieux de Jérémy, selon le commandant Will. « Nos familles sont très proches », dit-il. Quand la femme de Jérémy a eu ses jumelles, elle a écourté son congé de maternité pour accoucher la mienne. L'arrivée de Jérémy Hansen à Ingersoll a marqué les professeurs qui l'ont accueilli en troisième secondaire et vice-versa. Quand il visite des écoles, il raconte souvent comment un professeur de sciences a cru en lui et l'a poussé à faire des projets très en avance par rapport aux autres élèves du secondaire, ce que confirme Jennifer Rory, une prof d'histoire responsable du club Artemis, qui organise des activités autour de la Lune et d'Artemis II cette année à l'école secondaire d'Ingersoll. Il était poli, fiable et déterminé, ce que j'attribue au fait qu'il était cadet de l'air dès l'âge de 12 ans, dit une de ses profs d'alors, Cynthia Armstrong. Les autres élèves pensaient probablement qu'il était un nerd, mais il avait beaucoup d'amis et pas d'ennemis, ajoute Becky Boys, qui l'a rencontré en troisième secondaire et est restée amie avec lui depuis. C'est une grande inspiration pour nos élèves, dit Madame Rowey. Nous sommes une petite ville de 11 000 habitants. Ça montre qu'on peut faire de grandes choses, même si on vient d'Ingersoll. Avant Jérémy Hansen, les Ingersolliens les plus connus étaient la hockeyeuse Ella Shelton et le père de Laura Secor. C'était Un rêve d'enfance, de la ferme à la lune, un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 avril 2026 dans la presse.